Mémoire vive, préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. 2015 fut l'année des célébrations de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le grand absent de ces commémorations, qui se sont focalisées sur la libération des camps de la mort, sont précisément ce qu'on a appelé au sortir de la guerre les absents, catégorie confondant les prisonniers de guerre, les déportés politiques et les déportés raciaux, comme on les appelait à l'époque, c'est-à-dire en réalité les juifs. Oubli significatif qui redouble à 70 ans d'écart l'injustice qui a été faite à ces revenants auxquels, tout à l'euphorie de la victoire et de la reconstruction, personne n'a prêté attention. Un livre, Le retour des absents, aux éditions Stock, et une exposition au mémorial de la Shoah qui se tient jusqu'au 30 octobre, répare cet oubli. Et c'est du livre dont nous allons parler aujourd'hui. Bonjour Alain Navarro.
Bonjour Ève, je vous remercie de m'avoir invité.
Vous êtes journaliste à l'agence France Presse et vous avez écrit ce livre, un livre de photos, enfin pas seulement de textes et de photos, mais qui n'est pas, on pourrait dire, un beau livre, préfacé par Annette Vivorca. Enfin, quand je dis qu'il n'est pas un beau livre, ce n'est pas le genre de livre qu'on va offrir à Noël avec des photos et des textes prétextes ou de simples légendes. D'un livre d'histoire et en même temps d'enquête, enquête de mémoire sur justement ce qu'on a appelé les absents, dont le titre, donc je rappelle, 1945, Le retour des absents. Que recouvre en fait cette catégorie officielle, hein, je crois qu'elle est inventée même par Freinet, d'absents?
Alors d'abord, je crois que vous avez eu parfaitement raison de souligner un fait. Il y a une incongruité, appelons ça comme ça, de l'année passée, qui est une absence en effet de réflexion, une affluence de commémoration, sans doute aussi, et sur cet événement capital dans l'histoire de France, qui est ce retour de ce qu'en effet on appelle les absents. Pourquoi les absents? En fait, le terme est tout simple, c'est tous les gens qui ne sont pas là et ne sont pas là au moment de la libération de la France. Le 25 août 1944, Paris est libéré, la France dans sa totalité, pas totalement sa totalité, mais dans son immense majorité va être libérée, et de ce débarquement des troupes alliées jusqu'à la capitulation allemande, 11 mois vont s'écouler, et les absents sont précisément tous ces gens, il y en a près de 2 millions, principalement des hommes, mais pas que des hommes bien entendu, mais quand même à peu près un homme sur 10 à l'âge adulte ne sont pas là, ne sont pas en France, et ce sont ces prisonniers de guerre, d'abord, en nombre, si on emploie le critère quantitatif, à peu près 1 million de personnes, 750 000 aussi travailleurs volontaires ou obligatoires, ce qu'on appelle le STO, et puis bien sûr les déportés, vous le disiez, les déportés politiques et les déportés raciaux. Sur ce chiffre, puisqu'on en est encore aux chiffres, et il faut tout de suite les noter, 40 000 déportés politiques vont revenir, 3000 environ déportés juifs vont revenir. Et quand on parle des absents, il y a bien sûr aussi ces absents qui sont si présents, qui sont ces absents qui ne reviennent pas, 96% des juifs qui ont été déportés de France, qui est évidemment considérable. Tandis que, en ce qui concerne les prisonniers politiques, entre les prisonniers de guerre, pardon, et puis les travailleurs, eux, bien entendu, vont rentrer dans leur immense majorité.
Alors, une hiérarchie va se dessiner parmi ces rentrants. Vous la montrez très bien. Comment expliquer cette hiérarchie, en fait, qui reproduit celle qui existait dans les camps, en fait, d'une certaine façon, dans les camps au sens large, dans l'univers, on va dire, concentrationnaire allemand, entre prisonniers, déportés politiques, déportés raciaux
Alors, la hiérarchie, d'abord, c'est une hiérarchie, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, c'est un livre qui comporte un grand nombre de photographies, et je tiens tout de suite à dire pourquoi il y a ces photographies. Pas uniquement des illustrations, c'est pas du tout le propos de ce livre, de montrer des gens, c'est plutôt d'avoir une réflexion, de découvrir à travers un moment singulier, un moment qui est donc le moment où il va y avoir le flux du mouvement permanent, hein, qui est figé dans un instantané, et donc ces photographies vont être donc ce petit moment singulier qui va, à travers lequel on peut trouver le cristal d'une histoire qui est totale. Quand je dis totale, et je reviens sur votre question, c'est que la question du retour des absents est une histoire en effet totale. Les gens vont rentrer, une hiérarchie va s'opérer. La première manière d'ailleurs de voir cette hiérarchie, c'est par l'image. Et cette image va exprimer cette hiérarchie. Et cette hiérarchie va, dans un premier temps d'ailleurs, on a compris pourquoi. Les prisonniers de guerre vont revenir, ils sont extrêmement nombreux, être donc les plus montrés. Et puis peu à peu, les choses vont se décanter, en ce sens que les camps dits de l'Ouest vont être libérés au printemps. Et là, les prisonniers de guerre, d'une certaine mesure, dans la hiérarchie des mémoires, dans la hiérarchie en tout cas de l'honneur national aussi, de la reconnaissance en tout cas nationale, vont laisser des places à ces déportés politiques qui vont représenter l'absolu de la résistance morale et politique. Et puis les Juifs. Mais les Juifs, le problème est bien là, et c'est ce que ce livre montre, c'est qu'ils ne sont précisément pas montrés. Il y a une opacité sur le retour des Juifs, encore une fois. On peut considérer qu'il n'y a que 3000 Juifs qui rentrent, c'est certain, mais la question n'est pas une question de nombre.
C'est une question de leur... photo, quoi.
Ils sont excellents, ils sont hors champ, il y a une invisibilité évidente pour des gens qui ne rentrent pas, mais on aurait pu montrer aussi par des quartiers entiers qui étaient rendus vides en raison de la déportation, et pour des gens qui rentrent, on ne les voit pas. Donc peu à peu, bien sûr, cette hiérarchisation, qui est une hiérarchisation qui va s'ancrer dans les mémoires, est mise en place par ce dispositif de la représentation visuelle. Et ce que ce livre tente à montrer, c'est évidemment cette représentation d'une réalité. Encore une fois, la photo elle-même n'exprime pas qu'une réalité, on le sait tous, mais en tout cas la représentation d'une réalité qui va opérer dans le champ de la mémoire cette hiérarchisation.
Alors justement, votre livre, il s'ouvre sur le récit illustré donc de cette mise en scène du millionième. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Un millionième cache l'autre, écrivez-vous.
Alors le millionième, de quel millionième s'agit-il ? Il s'agit du millionième rentrant, du millionième absent, qui va être honoré par la France, la France officielle bien évidemment, qui le 1er juin 1945 va organiser une cérémonie, donc encore une fois bien sûr une mise en scène, de rentrée d'un homme qui a été choisi, un soldat, en fait, plus exactement un sous-officier, qui n'est donc ni un soldat ni un officier. Donc un sous-officier qui va revenir, qui va atterrir à l'aéroport, l'aérodrome du Bourget, à bord d'un avion américain. C'est la première chose d'ailleurs qu'il faut aussi remarquer, c'est que toute l'opération de rapatriement est quand même aussi le fruit de l'action extrêmement efficace, même énergique, et parfois par certains côtés inattendue, puisque le moment du retour a bien été choisi par les Alliés. Donc ce Dakota américain va sortir un prisonnier de guerre libéré. Ce prisonnier de guerre libéré a bien sûr été choisi, il est tout à fait photogénique, c'était un ancien représentant en parfumerie avant-guerre. C'est le héros du jour, et ce héros du jour est le seul qui va être montré au cours de cette journée, une journée qui se veut donc héroïque, organisée par Freinet, que vous avez cité, qui est le ministre de ce qu'on appelle les PDR, les prisonniers, les déportés et les réfugiés. Et il y a un petit problème, quand même un problème un peu sérieux, compte tenu de ce qu'on vient de dire sur la hiérarchie des rentrants, c'est que la décision de faire ou d'honorer à travers le millionième un prisonnier de guerre n'est pas sans poser quelques questions, alors même que dans la hiérarchie, justement, était en train de se dessiner une autre figure, autrement plus emblématique de la résistance, qui est précisément le déporté politique.
Que De Gaulle les aimait pas, les prisonniers politiques.
Je crois que De Gaulle n'aimait pas les prisonniers politiques, c'est pas un secret. De Gaulle avait été prisonnier pendant la Première Guerre mondiale, il avait tenté de s'évader, ça n'a pas marché, mais il considérait que le devoir, en tout cas d'un soldat, c'était de s'évader, de ceux qui ne s'étaient pas évadés, ceux qui étaient restés pendant toutes ces années,
c'était des 4-5 planqués, ans, quoi, en quelque sorte.
Peut-être pas des planqués, mais en tout cas pas des gens qui avaient fait ce qu'ils auraient dû faire. Encore une fois, on peut juger sévère le jugement du général de Gaulle, mais d'abord lui-même avait bien entendu résisté, avait bien sûr combattu, avait dit non, et très vite et très tôt, et il pouvait considérer que ce qu'il n'avait pas fait n'avait pas été, s'étant mis en dehors de l'histoire pendant toutes ces années-là, et n'ayant pas eu dans les camps de prisonniers, certains étaient très durs, les camps de prisonniers ont été certains de ces camps ont été des camps disciplinaires très très durs, mais évidemment pas comparables avec les camps de concentration et bien sûr les camps d'extermination.
Donc le malaise, pardon parce que je vous ai interrompu, était lié à ce qu'on mette à l'honneur un prisonnier politique au détriment donc des déportés politiques qui peut-être le méritaient davantage, sans parler donc des juifs qui eux de toute façon sont invisibles.
La question du mérite, c'est à ce moment-là on rentre bien sûr dans la catégorie d'un jugement de valeur, on peut d'ailleurs le penser, mais la question c'est qu'il y avait une forme d'anachronisme alors même qu'apparaissait les prisonniers, les déportés politiques sur la scène et donc sur la représentation et dans le cadre de cette mémoire qui s'organisait, dans ce récit national qui s'orchestrait, qui se mettait en place, d'avoir choisi un prisonnier de guerre. Or, les autorités avaient choisi aussi un millionième plus un qui était un déporté politique, un résistant strasbourgeois, un médecin. Mais il se trouve qu'à l'époque, dans cette opération de propagande, appelons ça comme ça, comme ça a été, eh bien ce déporté politique a été totalement laissé à l'écart. Il est strictement invisible. C'est l'homme invisible, c'est la doublure, mais une doublure qui d'une certaine mesure n'a jamais pu être ni mise en avant, ni même intéressé les journalistes et les médias qui ont couvert.
Enfin, il n'est pas vous, justement. Mais le docteur Romer. Parce que ce que vous avez contribué à faire dans votre livre, c'est justement gratter un peu ces photos et rendre visibles tous ceux qui n'y apparaissent pas.
C'est-à-dire, je vais faire un aparté sur la question de l'image et de la photographie à travers un des exemples les plus emblématiques et les plus symboliques, et d'ailleurs qui est un des fonds les plus importants à l'Agence France-Presse, outre bien sûr les photographies qui ont été prises, qui sont exceptionnelles, de la découverte des camps par un photographe qui s'appelle Eric Schwab, c'est les photos qui ont été prises au Lutetia. Les photos du Lutetia ont été des photos qui ont été prises par une équipe de photographes envoyées par la direction de l'AFP au printemps 1945 et à l'été 1945. Et sur la quinzaine de clichés du Lutetia, personne, pendant très longtemps, n'a eu moindre idée de dire qu'il s'agissait de déportés juifs qui revenaient. Et puis soudainement, depuis quelques années, depuis peut-être une vingtaine d'années, toutes ces photographies sont censées montrer ou symboliser la déportation juive. Or, pour pouvoir le dire et pouvoir l'affirmer, il faut en être sûr. Or, dans les fonds qui sont actuellement à l'AFP, rien ne permet de dire...
Dans les sous-sols, c'est ça, de l'agence?
Oui, dans les sous-sols.
Donc vous avez trouvé, en fait, vous avez trouvé des stocks de photos comme ça, pas légendées, pas classées.
Certaines des photos du Lutetia étaient connues, au contraire, elles étaient presque, j'allais dire, presque trop connues, ou en tout cas mal connues, puisque leur usage, ou plutôt leur mésusage, ont fait de ces photographies un fond qui symboliserait la déportation juive, alors que quand on s'y attache, quand on travaille de plus près sur ces photographies, on ne peut pas l'affirmer. On ne peut pas l'affirmer, sauf quelques-unes sur lesquelles j'ai dû travailler, donc renouer tous les fils des histoires ou des personnages qui se retrouvaient sur ces photographies. Mais c'est un des aspects les plus troublants des archives. Quand une exposition a eu lieu et un travail scientifique a été fait sur la découverte des camps, un travail remarquable qui a été fait il y a une dizaine d'années, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'au moment de la libération, de la découverte, d'ailleurs fortuite, des camps de concentration à l'ouest, l'état de confusion qui régnait, c'est-à-dire la population concentrationnaire était évidemment diverse, les gens qui rentraient des 5 ans n'en comprenaient pas du tout ni la spécificité, ni l'histoire, et ne comprenait pas que, à la fois qui étaient ces gens qui, pour certains, étaient décharnés, certains d'ailleurs étaient évidemment morts dans un wagon, d'autres étaient, disons, relativement bien portants. Et donc, le travail scientifique qui a dû être fait sur ces photographies de la libération des camps est un travail qu'il a fallu, à ma modeste mesure, reprendre également sur des fonds comme le fonds du Lutetia. De qui s'agit-il? Est-ce qu'on peut dire ou laisser dire quelles sont des photographies symboliques de la déportation juive? À mon avis, on ne peut pas le laisser dire. Il faut le retravailler. Et quand je l'ai fait et que je suis arrivé sur certaines photographies à retrouver, à renouer l'histoire de déportés, en effet des déportés juifs, de deux personnages que j'ai retrouvés qui étaient photographiés dans une des chambres du Lutetia, là, on a la certitude d'une part de ce qu'on affirme et la grande satisfaction, oui, c'est un terme de satisfaction, de pouvoir redonner à la fois non seulement du sens, mais également une histoire réelle à ces photographies.
Il faut expliquer que vous êtes tombé sur une photo donc non légendée qui vous a
Bouleversé, mais bouleversé, on peut le dire.
Obsédé, vous le racontez dans le blog, un blog de l'AFP qui s'appelle Making Of. Hein, je recommande la lecture aux auditeurs. Et vous n'aviez aucun indice autre que cousu sur une veste du plus jeune, un numéro de matricule. Et donc commence une véritable enquête historique et enquête de mémoire dans les archives françaises, américaines, même allemandes, et auprès des proches survivants.
Oui, fallait-il encore retrouver les proches. C'est-à-dire que c'est vrai, il y a eu sur cette photographie qui montre deux personnages, une composition un peu en pyramide ou en triangle, où on voit un homme jeune et un enfant, un adolescent, qui se retrouve assis sur un fauteuil. Le plus âgé est assis au-dessus du plus jeune, qui lui-même vous fixe des yeux avec une espèce de regard auquel on ne peut pas s'évider d'être confronté. C'est un face-à-face évidemment troublant qu'on a avec le plus jeune, et tandis que l'autre regarde un point extérieur, on ne comprend pas très bien finalement qui sont ces deux personnages. Il y a en effet un numéro de matricule sur la veste rayée du plus jeune, et puis derrière la photographie originale, il faut toujours regarder derrière les photographies originales, il y a toujours un petit indice, et j'ai trouvé un nom, mais en fait qui était comme un prénom et un nom, qui était Schwarzbaum. Or, c'était pas un prénom et un nom, c'était un nom. Ça, Schwarzbaum, c'est bien sûr un nom, c'est un nom d'un petit juif polonais, dont j'ai retrouvé l'histoire peu à peu, après avoir en effet passé d'archive en archive, de camp en camp. Et quand j'ai retrouvé non seulement son nom, Schwarzbaum, je l'avais à cette mesure, mais après son prénom ou ses prénoms, Yehuda Zenek, je suis retrouvé également le nom de la personne qui l'accompagnait, Éric Bruyère. Et donc deux destins singuliers, dramatiques, bien sûr, ils ont tous de perdu leur famille à Auschwitz, et qui se sont retrouvés, ayant tous les deux été évacués d'Auschwitz, se sont retrouvés après dans un camp allemand près de Stuttgart, ont lié leur destin. Donc les enfants ont été retrouvés, l'épouse du plus âgé, Éric Bruyère, aussi je l'ai retrouvé. Donc, voilà. Et l'histoire de leur évasion avec d'autres juifs polonais qu'ils vont retrouver après être partie de ce dernier camp allemand. Bon, ça, c'est un travail de longue haleine.
Que vous avez fait aussi au sujet d'une photo du général de Gaulle, on en parlait tout à l'heure, recevant un groupe de déportés résistants à l'hôtel de Brienne. Là aussi, c'est une photo, je crois, non légendée ou mal légendée. Vous avez réussi à...
C'est une photo où on voit d'abord De Gaulle, lui est facilement reconnaissable, parce qu'on ne peut pas ne pas reconnaître bien sûr De Gaulle,
ça c'est sûr.
Qui est campé dans un des salons, en effet c'est l'hôtel de Brienne, le ministère de la guerre dans lequel il s'est installé comme président du gouvernement provisoire après donc la libération, et qui va recevoir des déportés. Il n'y avait aucune indication, ni la date, ni le lieu, ni les personnages qui étaient assemblés derrière De Gaulle, et donc il a fallu peu à peu retrouver qui étaient tous ces gens, et c'était la première des pistes. C'est De Gaulle n'a reçu que des déportés politiques, il n'a jamais reçu de prisonniers de guerre, il n'a pas reçu non plus de déportés juifs ou déportés en tant que juifs, il a au contraire reçu à plusieurs reprises des déportés politiques, donc il s'agissait bien sûr de déportés politiques. Et puis disons que peu à peu des personnages sont apparus dont une personne, je ne m'attendais pas du tout à retrouver là, qui était Denise Jacob, la sœur de Simone Veil, qui elle avait été déportée comme résistante, arrêtée à Lyon, et qui s'était retrouvée, donc reçue par De Gaulle avec d'autres résistants, notamment le père et le frère d'Anise Postelvinet, qui était, vous le savez, avec Germaine Dillon à Ravensbrück, et puis bien d'autres femmes. Et donc, bien sûr, cette histoire, l'histoire en fait de cette photographie est parue beaucoup plus singulière. Le contact entre ces différentes personnes, leur manière en tout cas d'avoir été aussi honorée par la France officielle alors que les autres ne l'étaient pas. Je rappelle que Simone Veil n'a jamais été reçue par le général de Gaulle à ce moment-là. Et on peut dire que, et de manière légitime, que Simone Veil en avait conçu une certaine amertume.
Votre livre, Alain Navarro, se clôt sur une exposition qui a eu lieu au Grand Palais, donc juste après la guerre, sur les crimes hitlériens. Quel était le but, en fait, des organisateurs ? S'agissait-il justement d'ouvrir les yeux de la société française sur le sort spécifique des Juifs pendant la guerre ?
En fait, pas exactement, ou même peut-être pas du tout. Les autorités voulaient, avaient décidé d'organiser une idée. D'ailleurs, je tiens un incident d'Edgar Morin, qui avait le premier pensé à cette exposition et auquel il avait associé Marguerite Duras. Et après, il s'en est retiré. Donc l'idée des autorités était de montrer les crimes hitlériens. C'est le titre qui avait été retenu à cette exposition. Une exposition qui a eu lieu au Grand Palais. Le Grand Palais qui montrait encore d'ailleurs des stigmates des combats qui avaient eu lieu au moment de la libération et qui va être... précédé par une immense croix gammée, c'est un truc extraordinaire qui s'est passé. Le décorateur qui l'a choisi, le scénographe qui a choisi de faire cette exposition a décidé de tendre une immense croix gammée comme un sarcophage devant le Grand Palais, provoquant d'ailleurs la stupeur et d'ailleurs la colère du préfet de Paris.
Parce qu'il n'y a pas d'autre indication que cette croix gammée. On peut croire que les nazis sont revenus.
Le spectateur rentrant ou s'approchant de manière du Grand Palais va se retrouver confronté avec une croix gammée et sur le côté d'ailleurs des insignes SS. Donc l'idée est donc de présenter au public français dans cet endroit, qui avait d'ailleurs accueilli, faut-il le rappeler, pendant l'occupation, des expositions collaborationnistes et pro-allemandes, et donc de choisir ce lieu emblématique aussi d'ailleurs de l'architecture parisienne. C'est vraiment un des grands lieux d'ailleurs de la géographie du retour de ces absents, le Grand Palais. Cette exposition se veut didactique. Il est clair qu'il s'agit d'un projet pédagogique. Dans un premier temps, on va montrer, en choisissant des photos, certaines de ces photos, des photos vraiment chocs, considérablement agrandi, comme la photo par exemple du charnier de Bergen-Belsen, et qui va accueillir des visiteurs. Et cette exposition didactique va montrer de très nombreux panneaux dans une quinzaine de thèmes, sur une trentaine de salles. Seul problème pour nous, bien sûr, aujourd'hui, c'est qu'une seule section va traiter de la déportation et de l'extermination des Juifs, dont la spécificité n'est perçue dans aucun texte, ni dans le catalogue. Mais l'enjeu de cette exposition, certainement pédagogique, mais aussi politique, il s'agit de faire juger par le public, de faire juger sur pièce ce qui a été les crimes hitlériens, avec une part donc encore une fois minime à la déportation juive, et des considérations au contraire très longues sur la spoliation de l'industrie française, de toute une série d'autres thèmes. Et bien entendu, des thèmes qu'il ne faut pas négliger, mais dans la pondération, montre que le sujet n'est pas de faire comprendre l'horreur de la déportation, mais bien de faire juger des coupables. Les coupables, ce sont les Allemands, et c'est eux qu'il faut désigner à la vindicte du public à ce moment-là.
Et tandis qu'on escamote le génocide juif, l'antisémitisme continue à Paris, vous le montrez aussi dans votre livre.
Mais c'est-à-dire que je crois que personne ne pourrait prétendre une chose comme ça aujourd'hui, que l'antisémitisme qui prévalait en France avant la guerre, bien sûr pendant la guerre, aurait pu disparaître d'un coup de baguette magique à la libération. Ceux qui en font les frais, c'est d'ailleurs des rentrants, des absents, des déportés juifs qui vont rentrer et qui vont se retrouver, dans un premier temps d'ailleurs, dans l'impossibilité juridique de récupérer des biens qui ont été spoliés. Il faut attendre de longs mois avant que se clarifie la possibilité et donne la possibilité à ces déportés juifs de pouvoir rentrer chez eux. Et quand ça se fait, ils peuvent saisir un commissaire de police, avoir une action en référé. C'est ce qui se passe au printemps 1945. Par exemple, une date très précise, c'est le 18 mai 1945, un couple de Juifs veut rentrer chez lui, rue des Francs-Bourgeois, au 33 rue des Francs-Bourgeois. Il se fait accompagner par un commissaire, par quelques représentants des forces de l'ordre, mais sauf que tout le monde se retrouve confronté à des commandos qui attendent le commissaire, le couple de Juifs spoliés, et puis le cordon de gendarmes qui les accompagne. Et là, une bagarre générale va s'en suivre. Et non seulement une bagarre générale va s'en suivre, mais aux prises les acteurs que je viens de citer, mais ces acteurs vont être rejoints par des prisonniers de guerre qui, à ce moment-là, tempêtent dans les rues parce qu'ils n'ont pas assez reçu de vêtements, de ceci ou de cela, vont se joindre...
au cri de mort aux Juifs.
Au cri de mort aux Juifs, vont se joindre...
ça rappelle quelque chose.
Aux gens qui occupent ces locaux et les gens avec qui s'étaient fait donc accompagner pour s'opposer au retour des Juifs déportés. Et cette affaire va durer toute la journée et même la soirée. Donc une affaire comme ça, il y en a eu plusieurs à Paris et c'était très peu connu.
Et là-dessus, nous ne disposons pas d'images, pas de photos de l'AFP.
Non, il n'y a pas de photos, il n'y a pas d'images de cette journée et d'autres.
Mais merci Alain Navarro, je rappelle le titre de votre beau livre, Le retour des absents, 1945, Le retour des absents. C'était Mémoire vive. Deux adresses pour nous retrouver, www.radio-rcj.info, www.mémoirevive au pluriel.net. À dimanche prochain.